Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Vous avez certainement entendu parler de la loi du talion ainsi que du principe de tendre l'autre joue, enseigné par le Christ dans son sermon sur la montagne. Le grand Larousse encyclopédique définit le mot talion comme suit. Punition identique à l'offense. Loi du talion, loi qui exige de punir l'offense par une peine de même ordre que celle-ci. La loi du talion constitue une première ébauche de réglementation de la primitive vendetta. La vengeance devant être égale à l'offense. C'est elle qui a inspiré la législation hébraïque, exprimée par la formule célèbre « œil pour œil, dent pour dent ». Ce genre de mutilation vengeresse fut très vite remplacé par des compensations à la victime et des amendes. Fin de citation. Cette définition ne correspond pas aux Écritures. En effet, au moment où elle fut donnée, cette loi prévoyait déjà des compensations. Dieu avait sorti son peuple d'Égypte, il voulait en faire une nation, sa nation qui devait servir d'exemple pour les nations environnantes. Lorsque le peuple fut arrivé devant la montagne du Sinaï, l'Éternel Dieu rappela lui-même les 10 paroles ou 10 commandements, ces commandements qui, selon le livre des Psaumes, sont éternels. D'autres lois furent ensuite données directement à Moïse pour qu'il les transmette au peuple, parce que celui-ci avait formulé le désir de ne plus entendre la voix de l'Éternel. L'Éternel avait dit à Moïse, « Voici les lois que tu leur présenteras. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu les fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. » L'Éternel, qui avait donné peu de temps auparavant le commandement « Tu ne tueras point », agit avec justice, car la vie est quelque chose de précieux, et nous avons pour obligation d'être très attentifs à la vie de ceux qui nous entourent. Mais dans ce passage, Dieu fait la différence entre la mort provoquée volontairement et la mort accidentelle. Dieu dit encore, « Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni, dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. » Il s'agit ici de ce qui est appelé erronément la loi du talion. Il n'est pas question de rendre l'appareil, de frapper le responsable jusqu'à ce qu'il soit obligé de garder le lit à son tour, mais de dédommager et de payer les soins de la victime. Dieu dit encore, « Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. » Que veut dire l'expression « c'est son argent » ? Un complément d'information nous est donné un peu plus loin. « C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que tu achèteras l'esclave et la servante, et ils seront votre propriété. » L'esclave est un serviteur ou une servante. L'apôtre Paul a écrit que le chrétien était esclave ou serviteur du péché, mais il a été affranchi du péché pour devenir esclave ou serviteur de Dieu. Dans ce passage relatif à l'esclave et à la servante, la punition n'est pas établie. Ce sont les principaux du peuple qui devaient l'établir en prenant en considération les circonstances et la famille éventuelle du serviteur. Un dédommagement devait être accordé. Ces versets ne le fixent pas, mais ils le sous-entendent comme le confirme le contexte. Lisons encore. « Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils payeront devant des juges. » Est-ce à dire que si l'épouse de celui qui a provoqué l'accouchement prématuré était enceinte, il fallait la bousculer jusqu'à provoquer son accouchement prématuré? Non. Si l'accouchement prématuré se déroule sans autre accident, le mari imposera une amende en dédommagement. Lisons ce qui se passe s'il y a accident pour la mère ou l'enfant. Mais s'il y a accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Il fallait payer une juste compensation en proportion de l'accident. Certains en sont arrivés à croire que si quelqu'un occasionnait la perte d'un œil, on devait crever ou arracher le sien. S'il s'agissait de la perte d'une main, d'un pied ou encore d'une brûlure ou d'une blessure, on devait rendre l'appareil. Ceci est faux et ne serait pas digne d'un dieu d'amour. Mais alors que signifie cette expression « œil pour œil, dent pour dent » ? La réponse se situe dans le verset suivant. « Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour le prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. » Voilà la réponse. L'esclave obtenait la liberté pour son œil ou la liberté pour sa dent. Si vous prenez la peine d'examiner en détail les chapitres 21 et 22 du livre de l'Exode, vous constaterez qu'il est toujours question de dédommagement, sauf dans certains cas de négligence répétée, finissant par provoquer la mort ou lorsque le meurtre était volontaire. Le livre du Lévitique ajoute « Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. » Il faut se souvenir que la vérité est un peu ici, un peu là. Infliger la même blessure eût été un acte de vengeance qui pouvait dégénérer en dispute sans fin. Ce dernier passage ne modifie en rien les précédents, d'autant que l'amour du prochain était déjà requis à l'époque de l'Ancien Testament. C'est ce que Moïse rappelle au peuple, 5 chapitres avant, en écrivant « Tu ne te vengeras point ». Il n'est donc pas question d'œil pour œil ou de dent pour dent tel qu'on le conçoit habituellement. « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, puisqu'il est amour, vous devez savoir qu'il n'a jamais donné la moindre instruction pour faire souffrir ses créatures. Dans certains cas, pour ceux qui s'endurcissaient le cœur, qui blasphémaient et transgressaient volontairement la loi au su et à la vue de tous, il fallait appliquer la peine de mort, mais c'était aussi un acte d'amour. Mais, affirment certains, depuis que le Christ est venu sur terre, nous devons tendre l'autre joue. Jésus a déclaré, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Un chrétien peut-il faire usage de son droit? Peut-il se défendre verbalement sans donner de coups? Peut-il réclamer ce qui lui est dû? Ou bien doit-il toujours tendre l'autre joue? Parfois, nous regrettons de ne pas avoir dit notre façon de penser, de ne pas avoir empêché les gens de nous traiter comme ils l'ont fait. Mais nous n'avons rien dit. C'est ainsi que nous partons énervés, furieux et amers. Le chrétien doit-il subir les injustices et laisser les gens lui marcher sur les pieds? Nous pouvons cataloguer le comportement des gens dans trois catégories. Les passifs, les agressifs et les revendicateurs. Ceux qui sont passifs finissent par être frustrés et souvent abusés. Il arrive souvent que celui ou celle qui a été passif trop longtemps finisse par exploser. Mais l'agressivité n'est généralement pas acceptable socialement, et elle l'est encore moins du point de vue chrétien. Il s'agit d'un manque de maîtrise sur soi-même. La meilleure solution est celle du revendicateur qui agit gentiment mais fermement. Il expose sa situation en espérant arriver à une mise au point profitable pour tous. Certains demanderont, mais est-ce que le Christ ne s'est pas laissé crucifier humblement sans réclamer ses droits? La Bible nous montre que Jésus avait une attitude revendicatrice. Il connaissait ses droits et il ne permit pas à un groupe d'accusateurs de le tuer avant que le moment ne soit venu pour lui de donner volontairement sa vie pour l'humanité. Après avoir dit aux Juifs ce qu'il avait à dire, après leur avoir déclaré qu'ils avaient pour père le diable, qu'ils n'écoutaient pas ses paroles parce qu'ils n'étaient pas de Dieu, Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. C'était là sa défense, mais il n'a nullement tendu l'autre joue. Même quand l'heure fut venue de mourir, il insista pour ne pas divulguer l'identité de ses disciples. Lisons la façon dont il répondit à l'ancien souverain sacrificateur Anne. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit de secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Même alors, Jésus ne se laissa pas intimider par des officiels violents et hostiles. Il alla vers son destin comme un agneau qu'on va égorger, mais il y alla de sa propre volonté, parce qu'il était venu mourir pour tous et porter nos souffrances. Il savait qu'aucun membre du Sanhédrin n'avait le droit de le forcer à agir contre sa volonté. Il déclara aux Juifs, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Le Christ revendiqua constamment ses droits en tant que fils de Dieu, guérissant au cours du sabbat, et cela malgré les règles ajoutées par les pharisiens qui coupaient les cheveux en quatre, et il n'hésita pas à expulser les vendeurs du temple de son père en faisant un fouet avec des cordes pour chasser les animaux. Ce fouet n'était pas destiné à frapper les vendeurs, mais en chassant les animaux à l'aide de ce fouet, il obligeait leurs propriétaires à se mettre à la poursuite des animaux chassés. L'apôtre Paul agit de la même manière. Lorsqu'il fut confronté avec Silas à une démoniaque, il donna l'ordre aux démons de les laisser en paix. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, un esprit de divination, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Malgré leur immunité légale, cet incident les mena en prison sans même être jugé. Paul revendiqua ses droits et il demanda que les magistrats s'excusent et l'escortent personnellement hors de la prison. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Mais Paul dit aux licteurs « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. » Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs apportèrent sa parole aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser, et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville.